Le journal Felipe Ramondo.
Le deuxième tour de présidentiel, c'est pour le 29 octobre prochain. En attendant, à Bukavu, on réfléchit sur les insuffisances constatées lors du premier tour et la manière de les corriger au second. De leur côté, les professionnels des médias de Mbujimayi, Kananga et Matadi ont également fait les bilans de leur travail abattu pendant les élections du 30 juillet dernier et ils comptent mobiliser davantage d'énergie pour le second tour et les provinciales à venir. La rentrée scolaire, c'est dans exactement 2 jours, mais sont-ils prêts à reprendre le chemin de l'école ou à envoyer leurs enfants étudier cette année? Les avis sont plutôt partagés du côté des élèves et des parents. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la province du Sud Kivu. À Bukavu, plusieurs dizaines de paysans venus des territoires de Kabare, Walungu et Kalehe ont réfléchi sur comment éviter au second tour des présidentielles les insuffisances observées pendant les élections du 30 juillet dernier. La session s'est déroulée pendant 2 jours cette semaine dans les bâtiments de l'ONG Antibouaki. Angèle Baïgué des AIBF, l'une des associations organisatrices de cette rencontre, explique ce que les paysans doivent faire pour réduire les imperfections du passé. Elle est au micro de Jean Kassami.
Je peux y aller avec un exemple typique. Une maman qui veut aller voter. Au lieu d'aller au bureau de vote, seule, elle sera obligée d'amener son enfant, son neveu ou quelqu'un de chez lui pour faciliter la tâche. Parce qu'avec les agents de la CI ou les autres qui vont trouver au centre, en tout cas, il n'y avait pas de conviction qu'elle a voté comme elle le voulait. C'est pourquoi elle doit amener dès sa maison quelqu'un qui va faciliter la tâche pour le vote.
À Kisangani, en province orientale, près de 80 femmes, leaders du mouvement féminin de Kisangani, ont participé hier vendredi à un atelier sur le thème « La représentation de la femme congolaise dans les institutions politiques futures et stratégies pour le prochain scrutin ». Cet atelier a été initié par le groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme et développement basée à Kisangani. Un atelier motivé par les constats d'échec faits par les différentes candidates de Kisangani et d'ailleurs à l'issue des élections du 30 juillet dernier. Quelles sont les stratégies pour que les femmes soient élues et représentées dans les institutions politiques futures? Réponse de Dismas Kitenge, président du groupe Lotus.
Cette thématique de sensibilisation, de solidarité des femmes, mais aussi de leur représentation dans les institutions politiques, c'est un processus qui commence, qui connaît des difficultés, même des échecs, mais qui doivent aussi nous interpeller, nous tous, pour aller de l'avant. Donc, ce sont des difficultés de parcours d'un long processus. Je crois que les stratégies prochaines, c'est d'abord que les candidates elles-mêmes qui vont solliciter le suffrage soient unies. Et ça veut aussi se dépasser pour dire ce n'est pas nous toutes qui allons être élus, mais nous pouvons présenter tel, au moins qui peuvent être élus. Et au niveau des candidats, cette solidarité à faire émerger une ou deux qui peuvent passer. Deuxième stratégie, c'est-à-dire il faut mobiliser aussi les hommes qui croient à cet idéal-là pour qu'elles soutiennent les femmes. Troisième stratégie, c'est qu'il faut aller auprès de la base. Pourquoi ne pas faire la stratégie de porte à porte pour sensibiliser et trouver dans chaque avenue, dans chaque quartier, des femmes qui seront sensibilisatrices des autres femmes pour que cette cause soit prise en charge.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, était au micro de André Kitenge. À Mbujimayi, au Kasaï oriental, les médias et les institutions qui les regroupent ont présenté les bilans du rôle joué par les chevaliers de la plume durant toute la période électorale. C'était hier, au cours d'une pause café organisée conjointement par la section de l'information publique de la MONUC Mbujimayi, la Haute Autorité des médias, l'Observatoire des médias congolais et l'Union de la presse du Congo, section Kasaï oriental. Des détails avec Cathy Kataï.
Une cinquantaine de journalistes ont échangé ce vendredi autour du rôle que les médias ont joué au Kasaï oriental durant toute la période électorale. Concernant le comportement des hommes des médias, le coordonnateur provincial de la HAM, Faustin Mutombo, a condamné les messages des stations à la haine, la campagne déloyale auxquelles se sont livrées les stations de l'Odia dans le district du Sankourou. 3 radios affiliées à des partis politiques avaient été suspendues pour 7 jours après des incidents. Au chapitre du respect des règles déontologiques, le coordonnateur provincial de l'OMEC, Lambert Mbuyikana, a jugé dans l'ensemble le comportement des journalistes satisfaisant. Il a tout de même condamné le comportement des journalistes de la place qui se sont transformés en directeurs de campagne au mépris de leur rôle de neutralité et d'indépendance par rapport au pouvoir politique. Enfin, concernant les atteintes à la liberté de presse, le président de l'UNPC Kassai Oriental, Emery Mutombo, s'est dit satisfait du climat dans lequel cette période s'est déroulée. Il estime que les journalistes ont pu exercer leur métier convenablement. Kati Katai, Mbujmaï, Radio Okapi.
Au Kassai occidental, pendant ce temps, les professionnels des médias sont invités à s'impliquer davantage pour élever les taux de participation de la population aux prochains scrutins électoraux. C'est le message lancé hier vendredi par le gouverneur de province au cours de la remise des brevets aux journalistes ayant reçu une formation en nouvelles techniques de l'information et de la communication. La session de formation a été organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, section Kassai occidental. Le gouverneur Gilbert Tshiongo a demandé aux journalistes de joindre leurs efforts pour renforcer la sensibilisation et la mobilisation de la population sur l'éducation civique avant le scrutin du 29 octobre prochain, dans l'espoir de voir les taux de participation dépasser les pourcentages relativement bas enregistré lors du référendum constitutionnel, des législatives et du premier tour des présidentielles. Le gouverneur Gilbert Tshiongo Tshibukulawa Ntumba est au micro de Marie-Chantal Lumba.
Nous avons estimé qu'il était absolument indispensable de nous impliquer. C'est pourquoi j'ai annoncé qu'il y aura mise à disposition de quoi acquérir au moins deux systèmes complets d'ordinateurs connectés à l'Internet. Et nous avons pensé également qu'avec la presse, il y a moyen de relever le défi. Ce défi, c'est que 46% des taux de participation, c'est pas bien pour une province comparé à d'autres. Nous pensons qu'il est possible que la presse, encadrée de manière professionnelle, elle est capable de faire plus que ce qu'elle a fait maintenant. Et si le Kassai occidental ne fait pas attention, c'est le Kassai occidental qui sera le moins représenté au niveau national. Par exemple, la ville de Kananga avec 6 députés. Comment les 6 députés peuvent-ils se déployer au niveau du Parlement, où il y a plusieurs commissions? Le message, c'est dire, lèvons-nous tous aux prochaines élections, allons voter, en toute indépendance.
Gilbert Tshiongo Tshibukulawa Ntumba est gouverneur du Kassai occidental. Dans les Bas-Congo, les professionnels des médias se sont également réunis à Matadi. C'était au cours d'une journée culturelle organisée par l'Union nationale de la presse du Congo, section Bas-Congo. L'occasion a permis aux chevaliers de la plume du Bas-Congo de tirer les leçons sur leur participation aux élections du 30 juillet dernier et s'est préparé pour la suite du processus électoral. Les précisions avec Dani Kindanzita depuis Matadi.
Ils étaient plus de 70 personnes, tous professionnels des médias, à suivre les différents exposés centrés sur le travail accompli et devant être réalisés par les journalistes pendant la période pré- et post-électorale. Prenant la parole, le numéro 1 de l'UNPC Bas-Congo a félicité les chevaliers de la plume pour le travail abattu au cours des scrutins passés. De son côté, Maître Mouimba, représentant la CI Bas-Congo, a fait un bref aperçu historique de la commission électorale indépendante. Ensuite, il a formulé le vœu de voir le média sensibiliser la population sur notamment les contenus de la loi électorale et de ne pas attendre la tenue du second tour et les provinciales. Étienne Koussengoumouna, coordonnateur de la haute autorité des médias Bas-Congo, a quant à lui demandé aux journalistes de jouer pleinement leur rôle dans la diffusion des informations responsables. Informations de nature à encourager la cohésion nationale et qui découragent la division. Enfin, César Sassadine Toumba, gouverneur du Bas-Congo présent à cette rencontre, a exhorté le participant à redoubler les efforts pour maintenir un climat apaisé pendant les scrutins à venir. Dematadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
La rentrée scolaire 2006-2007, c'est lundi 4 septembre. La décision a été prise par le gouvernement congolais. Certains parents sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école, mais d'autres ne le sont pas pour diverses raisons. Même constat du côté des élèves. Pour plus de précisions, suivez plutôt ce reportage réalisé par Ramambaye.
La rentrée scolaire pose chaque année les mêmes problèmes, parmi lesquels l'achat des fournitures scolaires et le paiement des frais. À cela s'ajoute pour cette année à Kinshasa la situation dans la capitale qui pour certains parents n'est pas rassurante. Ils se réservent d'envoyer leurs enfants dès lundi. D'autres par contre sont positifs malgré toutes ces difficultés.
Je n'ai encore rien acheté. En tout cas, dès lundi déjà, je commence. Il n'y a pas de problème, même en retard, ça ne fait rien.
Mes enfants, là, il va falloir d'abord que j'achète les objets classiques. Après les objets classiques, bon, le reste on verra plus tard. Mais il n'est pas stable, il y a des problèmes, les parents n'ont pas d'argent et c'est un peu difficile. Donc c'est impossible d'envoyer un enfant à l'école le lundi.
La rentrée scolaire ne se prépare pas à la veille de la date.
Vous êtes prêts à envoyer vos enfants ce lundi?
Mais pourquoi pas? Mais moi, parent, je suis obligé, il doit rentrer.
Du côté des élèves, ils ne sont pas tous prêts à reprendre le chemin de l'école. Le manque de fournitures scolaires est la raison principale.
Bon, je ne suis pas prête. Moi, je manque beaucoup de choses, des objets, des sacs, l'uniforme, le Minerva.
Je suis prêt. Bon, il reste sincèrement les feuilles, comme il n'y a pas d'argent pour les Minerva, il reste on attend qu'on puisse payer quelque chose et puis commencer.
Non, je ne suis pas prête. Parce que mes parents n'ont pas encore l'argent.
Sachez par ailleurs que les deux syndicats des enseignants, Sinecat et Sieco, ont lancé un ultimatum jusqu'au 2 septembre afin que l'accord de Mboudi signé en 2004 soit appliqué avant de décider de la reprise des cours pour cette année scolaire 2006-2007.
En Ituri, mécontentement des usagers de la route qui mène au marché Kolomani, village situé à 4 km au nord de Bounia. Ils sont quotidiennement victimes des tracasseries de la part des hommes en uniforme et autres agents des services de l'État. En effet, l'armée, la police antifraude et la direction générale des migrations érigent des bureaux de fortune à Kolomani dans le but de percevoir de l'argent chaque jour auprès des passants sans donner des quittances. De Bounia, Jean-Claude Bissiliabo.
À 10 mètres du pont qui traverse la rivière Chari, trois cases couvertes en paille sont érigées sur une petite colline. La première case abrite un poste des soldats FRDC, la seconde abrite les bureaux de la police antifraude et la troisième les postes de la DGM. C'est dans ce dernier bureau que tout passant s'arrête, se fait enregistrer et paye 100 francs congolais. Ceux qui sont sur une moto ou sur un vélo payent un peu plus. Écoutons les témoignages de ces taximens moto.
Chaque motard au passage paye 200 francs congolais. Ceux qui sont sur un vélo payent aussi 200 francs. Quant aux piétons, on leur exige 100 francs. Si vous n'avez pas 100 francs, on vous retient jusqu'à ce que d'autres personnes puissent payer pour vous. Si vous payez aujourd'hui, demain également, vous devez payer.
Au marché des Kolomani, en dépit de la ration alimentaire que les chefs du marché collectent pour les militaires FRDC déployés sur place, les marchands déclarent que ces soldats FRDC préfèrent se servir eux-mêmes en utilisant la force. Contactez les autorités politico-administratives du district de l'Ituri disent ignorer cette situation. Elles promettent de faire des enquêtes. Dieudonné Roy-Bona, commissaire de district assistant chargé de l'économie et finances.
Une information que vous venez de donner, il faut qu'on puisse vérifier si effectivement ils perçoivent. Est-ce que vous avez des preuves montrant qu'ils perçoivent? On ne peut percevoir que lorsqu'il y a un acte générateur défini par la loi. Nous savons que la police peut être partout afin d'essayer de sécuriser la population, mais pas la perception.
Notons que c'est chaque lundi, mardi et vendredi que le marché des produits vivriers de Kolomani est opérationnel. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Actualité internationale, l'Égypte joue le médiateur dans le cadre d'une proposition visant à procéder à l'échange des 1000 détenus palestiniens contre le soldat israélien enlevé il y a plus de 2 mois dans la bande de Gaza, a affirmé la publication saoudienne Okaz. Selon l'AFP qui livre cette information, le journal a cité une source arabe selon laquelle la proposition consisterait à libérer 1000 prisonniers palestiniens en 3 étapes, 3 jours après la remise en liberté du caporal Gilad Shalit, un caporal dont l'enlèvement a déclenché une offensive de Tsahal, l'armée israélienne, dans la bande de Gaza. Des éléments du contingent italien de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FUNIL, ont commencé à débarquer ce samedi sur la côte sud du pays. Il s'agit des premiers effectifs militaires d'importance à arriver au pays du Cèdre depuis la cessation des hostilités entre les Hezbollah et Israël il y a 3 semaines. Les commandos des marines italiens coiffés des bérets bleus ont débarqué en hélicoptère dans la ville portuaire de Tyr afin de sécuriser 2 plages où un bataillon de 880 hommes doit débarquer au cours de la journée. En outre, 200 militaires italiens sont attendus demain dimanche dans la capitale Beyrouth. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez les retrouver sur www.radiocapi.net.